Le journal des régions sur la CRTV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Thème de la 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre. Le journal des régions vous propose ce mercredi le menu de quelques familles modestes à Maroua, Bafoussa et Ngaoundéré. Les médicaments de la rue font de la résistance à Douala dans le littoral. Malgré les multiples rappels à l'ordre des campagnes de sensibilisation, le phénomène persiste. Le constat dans le journal des régions. La 44e édition de la Journée mondiale de l'alimentation est célébrée ce mercredi 16 octobre sous le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ». Le JDR vous sert ce midi du poulet au village acheté à Maroua dans la région de l'extrême nord. Accessible et moins coûteux selon le consommateur. Faisons un tour au marché des poulets du village de Maroua en compagnie de notre reporter Adamou Moussa.
Nous sommes au marché de poulet situé sur les flancs du mont Kosé-LBI dans le ressort du 10e arrondissement de la ville de Maroua. Dans cet espace marchand sont vendus depuis quelques années des volailles de diverses catégories issues de plusieurs localités de l'extrême nord. Hamadou Ndida, président du marché de volailles.
Il y a beaucoup de poulets, surtout les poulets locaux. Il y a aussi les éleveurs qui nous envoient des poulets de chair à revendre ici. La majorité des poulets locaux vient de trois départements. Le département de Mayo-Danaï, il y a le Mayo-Kani, il y a aussi le Diamaré dans les environs, le Ndoukoula, Gazawa, Miri, il y a aussi Pété, Bobo.
Dans ce marché considéré comme l'un des tout premiers points de vente de volailles dans la ville de Maroua, le poulet est disponible en quantité et en qualité et à des prix abordables.
Malgré la chaleur, c'est quand même disponible. Tu peux avoir le poulet de 1000 francs jusqu'à 5000 en montant.
Le prix de ce poulet est de très bonne qualité. Le prix est suffisant. Ce poulet est à 2500. C'est vraiment bien.
Ces poulets sont vraiment magnifiques. Quand tu vois déjà la taille, la forme, cela veut dire que l'élevage est vraiment très bon.
Dans l'extrême nord, le poulet occupe une place de choix dans de nombreuses cultures et les habitudes alimentaires des populations. Difficile, voire impossible, de ne pas le trouver figurer au menu d'une fête ou d'une grande rencontre. Et les pouvoirs publics à travers le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales investissent chaque année beaucoup de moyens pour faire décoller ce secteur et permettre aux aviculteurs de voler de leurs propres ailes. Maroua, Adamou Moussa, CRTV.
Direction Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest où la consommation des fruits ne rentre pas dans les habitudes alimentaires de nombreux citoyens. Le manque de moyens ou de volonté sont entre autres raisons évoquées. Et pourtant, les nutritionnistes recommandent une consommation quotidienne de fruits, nous dit Victorine Begel.
Sur trois personnes rencontrées ce matin dans les rues de la cité capitale de l'Ouest, seule une personne affirme consommer des fruits de manière régulière.
Moi, je consomme tous les fruits même par jour. Le pastèque, orange, papaye. Très tôt, je me lève, s'il y a les oranges, je suis 10h, 11h, au petit déjeuner, je prends le pastèque. C'est bien pour la santé.
C'est pas dans mes programmes alimentaires, en fait.
Généralement, c'est même trois fois par semaine. Il y a des semaines que je ne consomme pas, surtout quand je ne vois pas. Mais quand je vois, je consomme.
Le manque de moyens ou encore l'oubli sont entre autres raisons évoquées.
C'est pas évident d'en consommer tous les jours parce qu'il y a des moments. Qui sont abordables, les moments, c'est cher. Tu vas par exemple manger du gin orange à 100 francs. Tu vas me dire, mais tu vas sucer une seule orange à 100 francs. Ça va pas tout satisfaire.
Parce que je n'ai pas les moyens pour m'en procurer. C'est cher à moi. Je ne suis pas habituée. Et même quand je suis allée à l'hôpital, il y avait une maladie, l'hémorroïde. On m'a conseillé de consommer beaucoup de fruits.
Pourtant, la consommation des fruits est indispensable pour la santé. Elle met l'individu à l'abri des carences et de certains désagréments. Jacqueline Momo, nutritionniste.
Les fruits entrent dans une catégorie de nutriments appelés les aliments de protection, tout simplement parce qu'ils sont riches en vitamines et en sels minéraux. Et qui dit vitamine, dit surtout les nutriments qui aident à protéger l'organisme contre le stress oxydatif. Pour éviter les problèmes du transit comme les constipations, il faudrait consommer beaucoup, beaucoup de fruits.
Pour la nutritionniste, les fruits frais de saison sont privilégiés et à consommer quotidiennement.
Il est recommandé de consommer les fruits dans un estomac vide. Il ne devrait pas se combiner à d'autres nutriments de peur d'être éliminé ou à défaut très loin des autres repas. À chaque saison, il y a un type de fruit.
Chez les enfants, la consommation quotidienne des fruits est plus qu'une nécessité. L'experte recommande la banane douce, un fruit de la forme qui régule le transit. Bafoussam Victorine Beguel pour le Journal des Régions.
Et pour garantir l'autosuffisance alimentaire dans la région de l'Adamawa, de nouvelles cultures sont introduites. Objectif, diversifier les cultures et assurer la disponibilité. Oumar Oukadili.
En cette journée mondiale de l'alimentation, les populations ici s'expriment sur la disponibilité alimentaire dans la région de l'Adamawa.
En Gaoundé, on arrive quand même à trouver un peu de tout. Les gens essayent de mettre à disposition ce qui sort directement des plantations.
Par rapport à l'alimentation, ce n'est pas difficile à trouver. Je suis satisfait.
Cependant, loin d'être alarmiste, il subsiste tout de même un hic.
Par rapport à l'alimentation ici au nord, je pense que c'est pareil au sud, sauf que les prix diffèrent selon ce qu'on trouve ici.
On ne peut pas tout retrouver, mais on mange ce qu'on trouve. On cultive ce qu'on peut manger aussi.
Dans cette offre sur nos marchés, les produits importés et ceux fabriqués localement se côtoient à la préférence de tout un chacun. Hamza, boutiquier, et Nasser, chef de famille.
Nous utilisons dans nos familles beaucoup de produits agroalimentaires, à l'instar du riz, les pâtes alimentaires, également certains produits en bois de conserve tels que la sardine et autres.
Et pour davantage susciter la consommation locale, l'on note entre autres, pour s'en réjouir, la relance de la culture du blé. Le cas des champs de Wassandé, où environ 8000 hectares de terre exploitables sont progressivement mise en valeur.
On est à environ 95 hectares dans le site de Wassandé. Parce que d'autres petits producteurs font aussi un peu de semences certifiées que le MUNADER d'ici là pourra acquérir pour redistribuer à d'autres producteurs.
Une politique d'autosuffisance alimentaire qui passe donc forcément par la diversification des cultures.
On a tendance de croire que l'Adamawa est un bastion essentiellement de l'élevage. La sécurité alimentaire est essentiellement basée sur les céréales, les productions de l'Adamawa qui sont des productions de tubercules et féculents.
Voilà qui permettra d'éradiquer la famine dans cette zone agro-pastorale du pays, si tant il est vrai que le droit à l'alimentation est un élément fondamental d'une vie meilleure et d'un futur heureux. Ngaoundéré, Oumar Oukadili, CRT.
La canne blanche, symbole de la cécité, de la malvoyance, moyen de déplacement et de communication pour les non-voyants et malvoyants, n'est pas utilisée dans la région du Nord. Dans la ville de Garoua, les personnes atteintes de la cécité sont restées accrochées aux moyens traditionnels de déplacement et de communication. Le reportage de Elie Omeondo, CRTV Nord.
Dans la région du Nord, il n'est pas courant de rencontrer dans les rues des personnes atteintes de cécité avec une canne blanche pour s'orienter. Elles se meuvent dans la cité à l'aide des guides. Souleymane Ben, habitant de Garoua.
Je vois souvent les aveugles qui marchent en tenant le bâton qu'on appelle canne. Ça leur aide souvent à guider. Il y a aussi certains qui ont les enfants pour les guider.
Les habitants de la ville de Garoua restent partagés sur l'origine de cette pratique qui pourrait avoir un impact négatif sur les guides encore très jeunes.
Ces enfants risquent de rater leur vie, donc ce n'est pas tout à fait normal. Pour ceux d'ici, ce n'est pas une tradition de foi, c'est par manque de sensibilisation ou bien par manque de canne ou bien par manque d'expérience.
Bouba Ali Gomté est l'un des rares non-voyants de la cité qui possède une canne blanche. Pour lui, ces non ou malvoyants n'ont certainement pas été initiés à l'usage de la canne blanche, tout comme plusieurs usagers de la voie publique.
Dans la ville de Garoua, on constate que dès que tu soulèves la canne, les gars viennent même, ils tapent la canne, ils passent. C'est cette ignorance-là qui constitue pour nous, déficients visuels, les véritables péripéties.
La célébration de la Journée internationale de la canne blanche est donc une occasion de promouvoir cet outil et de sensibiliser les populations sur la communication conventionnelle autour de la canne blanche. Garoua, Elio Meondo, CRTV.
Allons à présent dans le sud, allons à la rencontre de Félix Ango, malvoyant qui utilise la canne blanche depuis 19 ans aujourd'hui à Ebolova. Son quotidien est raconté dans ce reportage de Sandra Assem, stagiaire à CRTV Sud.
Bonjour la CRTV, bienvenue chez moi.
Merci.
Ok, asseyez-vous.
Nous sommes allés ce matin à la rencontre de Félix Ango, un malvoyant qui utilise la canne blanche depuis plusieurs années.
La canne blanche, c'est un élément qui nous permet à nous, les non-voyants, de détecter les obstacles qui sont devant nous, autour de nous. Je suis allé à la chorale pendant qu'on était dans la salle de répétition. Il y a eu un incident, une ampoule a pété et ça produit le feu. Chacun essayait de se sauver. Je suis donc resté dans la salle seul. À mon tour, il fallait que moi aussi je me sauve. C'est la canne blanche qui me permet de détecter là où c'était libre pour que je traverse.
La canne blanche est un outil simple mais efficace. Elle permet aux malvoyants de détecter les obstacles à distance et de s'orienter dans l'espace. C'est également un outil de sécurité. Elle permet aux malvoyants d'éviter les accidents et les chutes.
Lorsque je sens un bruit à côté de moi, là ça me rappelle que ça c'est un obstacle et c'est un élément dur. Vous entendez le bruit? Mais là où il y a l'eau, vous voyez, c'est différent. Ça me signale la présence de l'eau. Là où il y a la boue, ça fait aussi un autre bruit. À travers le bruit sonore, c'est ça qui vous rappelle que ici il y a un élément dur ou bien de l'eau ou la boue. C'est pour ça qu'on dit que la canne blanche parle.
La canne blanche est un outil de liberté pour les malvoyants. Elle leur permet de vivre de manière indépendante et sécurisée. Nous devons continuer à sensibiliser les gens à l'importance de cet outil et à faire en sorte que les espaces publics soient accessibles à tous. Ebolova, Sandra Assembeu pour la CIACTV.
Il est 11h47 dans ce studio. Vous écoutez le journal des régions. Retour sur la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. C'est pour nous intéresser aux activités d'une dame qui se distingue. Ruth Françoise Matiké, institutrice de formation, consacre son temps aux activités agricoles. Elle est la présidente du réseau des femmes rurales de l'ONACO dans le département du Mungo, région du littoral. Le portrait de cette reine de la terre est dressé par Marcel et Cassie Billé, CRTV Littoral.
Les premières lueurs du jour ne l'ont plus trouvée dans son lit depuis belle lurette. Ruth Françoise Matiké, 48 ans, fait partie du réseau des femmes rurales du Lonaco dans le département du Mungo. À son actif, 50 hectares de plantains, manioc, taro, macabo et cacao pour l'essentiel.
Je me lève à 5 heures comme toute bonne femme de ménage. Il faudrait que j'apprête d'abord le petit déjeuner pour les enfants et mon époux afin de pouvoir sortir. Donc au plus tard à 7 heures, je suis déjà dans mes champs.
Une femme rurale des temps modernes qui passe par le numérique pour écouler ses produits.
Nous passons sur le net, nous faisons des prospectus par rapport à notre produit que nous avons.
Ruth Françoise s'interdit surtout de négliger son apparence physique.
C'est pas parce qu'on va au champ qu'on doit être habillé en haillons, comme si on était trop démunis, les habits sales, que non.
Mariée et mère de 4 enfants, Ruth Françoise transmet avec passion son amour pour l'agriculture à sa progéniture.
Le samedi, mes filles et moi, nous tous, nous sommes dans les champs. J'ai hérité ça de mes parents. J'ai eu cet amour-là, parce que c'est ça qui nous a fait grandir.
Au-delà de ses réalisations actuelles, cette femme rurale caresse un rêve plus grand.
Mon rêve, c'est de mettre sur pied une usine de transformation de manioc.
S'il fallait tout recommencer, ce serait donc avec joie que Ruth Françoise resterait femme rurale. Et bonnet, dans le Mungo, Marcel et Cassie Billé pour la CRTV.
L'option des réseaux de femmes comme arme efficace pour permettre aux femmes rurales de la Mefouya Kono dans la région du centre de profiter de la zone de libre-échange continentale. Enseignement à retenir de cette célébration de la Journée mondiale de la femme rurale. Vincent Depaul Mebara, reportage.
Légumes, volailles, plantains, tout ou presque est exposé par la femme rurale au village Ibibé.
Je suis la femme de Monsieur Tsala, Henri Angamba. C'est le corps qui a conçu ma maison depuis l'an 2015 que je fais le corps à Kono. Je entre en brousse, je cueille les feuilles de corps. J'emballe, je commence à découper, je mets l'état de 500 francs, les 500.
En bonne place aussi, les produits issus de la petite transformation en dépit des difficultés.
Nous transformons le manioc, commençons d'abord dans la semence. Pour avoir une bonne farine, il faut avoir la bonne semence. On a les variétés, la 96-14-14, la 92-326, la 96-0023, la 80-61. Avec ces variétés-là, vous avez une bonne farine. Et cette farine-là dépasse la farine du blé. Avec la farine du manioc, on a le whisky, on a le yaourt, on a les beignets, on a les biscuits. Toute qualité quantité de biscuits. On a la poudre, on a les saucissons avec les feuilles. On a le mimboami comme que tout le monde connaisse. On a la teinture avec la feuille du manioc. À présent, nous remplaçons ce qu'on prépare le ndolé avec appelé le kawa. On a déjà le seul germe de la bouture du manioc.
Une production importante rendue possible dans ce département grâce au soutien de l'élite Julienne Abondo, leader d'association, et Colette Mbada, de l'exécutif communal.
Des formations pour leur autonomisation. Comme cette année, il y a eu plusieurs formations comme la formation du charbon écologique, la production du fosse, la formation des liquides vaisselle, de l'eau de Javel, etc.
C'est tellement important parce que les autres et de pouvoir partager les expériences de chaque arrondissement.
Antoinette Zongo, le préfet du département de la Mofuyakono, salue ces réalisations des femmes, mais les exhorte tout de même à davantage s'inscrit dans les réseaux pour faire mieux.
Maintenant, on parle d'imposition. On ne peut pas atteindre cet objectif dans notre département si les femmes rurales n'en sont pas organisées.
Le préfet qui a par ailleurs invité la femme rurale à faire attention à la politique qu'elle qualifie de gangrène, capable de la détourner de son objectif de développement. Yaoundé dans le centre, Vincent de Paul Mbara, CIA TV.
La vente de médicaments de la rue fait de la résistance à Douala dans le littoral. Malgré les multiples rappels à l'ordre des experts en santé qui ne cessent d'alerter sur la toxicité de ces produits exposés à des intempéries et souvent mal conservés. Le reportage de Karine Noël, Jussi, stagiaire à CRTV Littoral.
Aux allures des pharmacies en plein air dans diverses ruelles, un marché clandestin prospère, celui des médicaments de la rue. La consommation de ces substances est souvent liée à divers facteurs socio-économiques. Mais la Beuh Solo, consommatrice.
On s'est directement tourné vers ces médicaments de la rue-là parce que c'était très accessible. Il faut aussi admettre que dans les années antérieures, je les ai utilisés par défaut financier.
Ces médicaments, généralement issus des circuits douteux, sont fournis par des vendeurs motivés à vendre tout par le profit.
Il y a des gens qui sortent de l'Europe avec des spécialités. Je m'approvisionne aussi chez eux. Parfois, je me fais livrer par des grossistes.
Nous trouvons des médicaments dans plusieurs réseaux. Il n'y a pas un circuit fixe. C'est un réseau fourre-tout, comme on peut dire là, vraiment. Donc, ça dépend maintenant de ce que l'on veut. Donc, si tu veux le bon médicament, le réseau te donnera des bons médicaments. Il peut y arriver que certains soient périmés. Et lorsque ceux-ci sont périmés, il y en a, et j'en ai vu, des grossistes qui louent certains techniciens pour modifier les dates de péremption et de fabrication.
Le docteur Emmène Dumont, médecin généraliste, met en garde contre les risques que représentent ces médicaments pour la santé des patients, et ce, pour plusieurs raisons. Leur composition inconnue et les effets secondaires potentiellement graves.
Ces médicaments de la rue entraînent par conséquence les insuffisances rénales, les hépatites, le foie et attaquer chez le malade qui consomme ces médicaments contrefaits.
Le marché des médicaments de la rue est une menace vitale pour la société. Aborder cette problématique s'avère primordiale afin d'offrir des solutions durables aux consommateurs de ces médicaments de nature douteuse. Douala, Karine Noël Ndjussi pour le Journal des Régions.
Et à 11h, passé de 54 minutes dans ce studio, le JDR du mercredi 16 octobre 2024 se referme au générique. Octavie Tomta, Boris Lemamoum, Marc Blama, Ibrahim Mohamed Abassi. Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi la CRTV pour vous informer. Excellente journée à tous et à toutes et à demain 11h35.
Voilà, merci à vous.